Ce matin, je vais continuer à partager par rapport à ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et on va donc continuer sur cette notion de changer de mentalité. Donc aujourd'hui, comment je vais dire ça? Vous savez, je vous l'ai déjà dit, la semaine, je suis mes plans de lecture, et puis cette semaine, de nouveau, je suis retombé sur quelque chose qui a percuté mon cœur. Et j'aimerais redire ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que dans ce que vous allez entendre ce matin, je vais surtout vous partager des versets bibliques. Je vais essayer de faire le maximum pour ne pas trop commenter, que ce soit vraiment la parole de Dieu qui nous touche. Et en tout cas, ce que je vais vous partager ce matin, sont des textes. C'est un peu comme, j'aimerais presque qu'on ferme les yeux, qu'on s'imagine que c'est Jésus qui parle, parce que les textes que je vais vous donner, c'est les paroles de Jésus. Oubliez que c'est Jean Bernard. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais tellement, et c'est ce que je fais pour moi-même, que ces lectures qu'on va entendre ce matin, c'est cette parole de Dieu, l'expression du cœur de Jésus qu'on va entendre ce matin, qu'on l'approprie chacun personnellement. On n'ait pas tendance à dire, ce serait bien que mon voisin ou ma voisine, elle le prenne en compte. La parole de Dieu, ce que Jésus nous partage et nous dit, c'est pour nous en premier. Oh, bien sûr, ça s'adresse aussi aux autres, mais c'est avant tout pour nous. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur de ce que cette parole, la Bible vient, ce que je lis dans la Bible me touche en profondeur, elle change l'être que je suis. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Voilà. Alors, dans cette notion de changer de mentalité, on avait vu un certain nombre de choses, je voulais rappeler, parce que ça me semble tellement fondamental quand même. C'est que je ne peux pas comprendre ce que Dieu me dit dans sa parole, je ne peux pas réaliser en profondeur la portée des paroles, même de Jésus, si je ne prends pas en compte le fait que il y a, comme disait l'apôtre Paul, la chair, donc notre être issu de cette nature d'Adam. Je vous rappelle juste que c'est ce texte que je vous ai partagé il y a quelques semaines maintenant, où tout au début de la Bible, où il est dit que Adam a été créé à l'image de Dieu, parfait, et que par la suite, nous, on a été créés à la ressemblance d'Adam et de l'Adam qui avait péché entre deux et qui avait été déchu. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, notre chair, elle a en elle cette nature de cet Adam déchu. Si je ne comprends pas ça, je vais passer à côté de tellement de choses. Et ça me semble fondamental que de réaliser que la source naturelle de mes pensées à nous tous, elle est influencée par cette chair issue de cette nature d'Adam. Alors évidemment, le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu fait quelque chose en nous, et merci Seigneur pour cela, mais je ne peux pas. L'apôtre Paul va dire, et je vous le redis ce matin, que jusqu'à la fin de nos jours, on aura à faire mourir en nous cette nature de chair. Et s'il dit ça, c'est qu'il y a des raisons. Alors ça, c'est le premier élément. On avait vu ensemble. Le deuxième élément, c'est on avait vu que, on devait être transformé. Quand on parle de changer de mentalité, c'est-à-dire que je dois me laisser transformer. Et que je dois me laisser transformer par choix. C'est un choix que je fais. Et pour être sur le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas oublier. Vous savez, Jésus va employer cette image du chemin large et puis du chemin étroit. Et il nous dit dans cette parabole où il fait donne cette image qu'on doit choisir, un chemin. On a un choix à faire. Et c'est vrai que notre nature, la source naturelle de nos pensées, elle va avoir tendance à choisir le chemin large. Parce que, comme Jésus le dit lui-même, bien c'est un chemin qui est facile, en tout cas plus facile que le chemin étroit que Jésus nous invite à choisir. Parce que justement, ce chemin étroit, Jésus va dire, c'est un chemin étroit, difficile, rocailleux. Et pourquoi il est étroit, difficile, rocailleux pour chacun de nous? Eh bien, justement, parce que sur ce chemin-là, on va devoir faire mourir toute cette chair issue de cette nature d'Adam. Frères et sœurs, je sais que vous le savez déjà, je le sais pour ma part, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile. Mais Jésus nous invite à choisir ce chemin-là. Et dans notre vie de chaque jour, on doit s'efforcer de choisir ce chemin-là. Le troisième point qu'on avait vu déjà, c'est que si je veux changer de mentalité, être transformé, eh bien, je dois chercher la face de Dieu. Je ne dois pas aller chercher en moi, dans mes émotions, mes sentiments. Je dois chercher la source de ma vie. Eh bien, elle est dans la vie de Dieu. Elle est dans la face, en cherchant la face de Dieu. Elle est en me plongeant, en cherchant le cœur de Dieu, en le découvrant dans mes temps de où je me mets à part devant la face de Dieu, où je lis sa parole, où je fais mon culte personnel, par exemple. Il n'y a pas que, bien sûr. Voilà, je cherche la face de Dieu. Et puis, le quatrième point, c'est que je ne peux pas chercher la face de Dieu sans vouloir m'humilier moi devant lui. Ce n'est pas Dieu qui m'humilie. C'est moi qui dois choisir de m'humilier devant la face de Dieu. Je dois reconnaître que lui sait tellement mieux que moi. Que je dois reconnaître que mais de toute façon, sans lui, bien, je suis rien. Mais quand lui, j'ai tout. Donc je dois m'humilier. Le cinquième point qu'on avait vu, c'est qu'il ne faut pas seulement entendre ce que Dieu dit dans sa parole, mais il faut écouter. Ce n'est pas le tout d'entendre, il faut écouter. Et puis quand j'écoute, j'entends, j'écoute, eh bien j'obéis. Parce que si j'entends, et puis j'oublie, mais non, je veux écouter. Mais si j'écoute, et puis je ne vais pas plus loin, c'est-à-dire j'écoute, j'ai compris, mais je n'accomplis pas la volonté de Dieu, c'est trop difficile, donc je suis comme sur ce chemin large, eh bien... je suis en désobéissance devant lui. Alors il faut que j'apprenne à entendre bien sûr ce que Dieu dit, à écouter, à le comprendre, et puis bien sûr à lui obéir. Le sixième point qu'on avait vu, c'est se poser la question, c'est quoi la source de ma joie? Qu'est-ce qui me fait avancer tous les jours? Qu'est-ce qui fait ma joie? Est-ce que c'est les choses matérielles de ce monde, j'oserais dire, est-ce que c'est ma joie, est-ce qu'elle est... Enfin, c'est quand mes émotions, mes sentiments sont satisfaits, ou est-ce que c'est de servir le Seigneur? Est-ce que ma joie, elle ne repose pas dans le fait d'obéir et de servir le Dieu, d'être utilisé dans le royaume de Dieu? Elle est où la source de ma joie? Le septième point, c'est, on avait vu, c'est comme Jésus. C'est quand même un peu lié au point précédent, il me semble en tout cas. C'est comme Jésus, choisir de renoncer à notre propre volonté pour accomplir celle du Père. Ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il nous a montré. Il a fait à tel point qu'il est allé jusqu'à la croix. Je vous rappelle de nouveau, et moi, ça, quand je pense à ça, enfin, franchement, frères et sœurs, ça me touche énormément. Quand je réalise, je ne peux pas me mettre à la place de Jésus. Mais alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané, qu'il est en prière, et qu'il est, enfin, il est était en train de réaliser ce qu'il allait vivre, les souffrances qu'il allait porter, non seulement les souffrances physiques, mais la souffrance morale. Je vous rappelle que sur la croix de Golgotha, il a porté tout le poids de nos péchés. C'est inimaginable la souffrance que Jésus a dû supporter, qui était là devant lui. Et à tel point qu'il a fait cette prière au Père en disant « Seigneur, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. » Hein, vous connaissez son texte. Et puis, finalement, il va dire, face à ce qui était devant lui, il dit « Seigneur, non pas ma volonté, non pas l'expression de mes émotions, ce que je suis en train de vivre dans cet instant, ce que je suis en train de saisir, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, je veux faire ta volonté. » Alors, si nous voulons être comme Jésus, et ça. Il nous faut apprendre à renoncer à notre propre volonté quand elle est contraire à la volonté de Dieu, afin d'accomplir celle du Père. Et puis, on avait vu en 8 et 9, je dirais, la notion de la vraie foi. Et cette foi, ma foi, bon, je ne peux pas parler pour votre foi, mais je peux parler pour la mienne. Ma foi, en tout cas notre foi, enfin votre foi comme la mienne, eh bien, elle me tiendra fidèle même dans l'adversité. Quand tout est contraire, quand tout est en train de s'écrouler autour de moi, comment est-ce que je vis la chose? Comment est-ce que j'agis? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que j'abandonne tout? Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'intention de tout abandonner. Mais je ne l'ai jamais fait. La vraie foi me tiendra fidèle, même dans l'adversité. Alors voilà tout ce qu'on avait vu précédemment dans cette notion de changer de mentalité. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce que Jésus, donc c'est pas moi qui vous dis ce matin. C'est Jésus. Oubliez Jean-Bernard. Réalisez que c'est Jésus qui dit ces choses. On va lire ensemble. Mais en tout cas, ce que Jésus nous dit, c'est que nos actes, et dans ce qu'on va lire ce matin, eh bien, il y a des choses tellement concrètes. Mes actes prouvent le changement de ma mentalité. C'est pas le tout de dire, ben oui, Seigneur, j'ai compris, tu voulais que je change de mentalité. Mais mes actes, c'est pas seulement ma parole, c'est pas seulement mon désir qui va montrer que je change vraiment de mentalité. C'est-à-dire que je suis plus en train de suivre cette mentalité issue de ma nature adamique, mais que je veux suivre la mentalité issue de ma nature divine, enfin divine quand Christ vit en moi. Eh bien, c'est mes actes qui vont prouver ça. Ils vont prouver le changement de ma mentalité. C'est Jean-Bernard qui dit ça? Non, frère, c'est ça. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Je vais vous le dire tout de suite. On le trouve dans Luc, chapitre 3, à partir du verset 8. Voilà ce que va déclarer Jésus. Je vous lis dans la version français courant. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. C'est Jésus qui dit ça. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, quand je relis ça, ça me touche. Jésus, je fais un petit commentaire. J'ai dit que j'en ferai pas beaucoup, mais j'en fais un petit commentaire. C'est plus fort que moi. Parce que ça me touche tellement. j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Il y a une nécessité absolue de ne plus vivre selon notre mentalité adamique. On doit montrer par nos actes qu'on change, qu'on n'est plus gouverné par notre mentalité adamique. Pourquoi ? Et Jésus dit au verset 9 que nos actes vont montrer avec cette image. Il lui dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Si mes actes sont en train de montrer les bons fruits, puis on va voir tout à l'heure au travers des versets qu'on va lire, quels sont les bons fruits que Dieu désire qu'on montre. Parce qu'il le dit clairement. Mais, frères et sœurs, comment est-ce que je ne pourrais pas être concerné quand je comprends dans ce texte que Jésus lui-même est en train de dire, je vous rappelle que ce n'est pas Jean-Bernard qui parle ici, c'est Jésus, il dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Je n'ai pas envie d'être coupé pour être jeté au feu. Et j'espère que vous n'avez pas envie d'être coupé pour être jeté au feu, frères et sœurs. Alors, ce qui suit me parle et va me parler. En tout cas, ça m'a parlé, ça veut me parler encore. Je veux le prendre encore pour moi ce matin. Et j'aimerais tellement vous partager cette parole de Jésus parce que je suppose quand même que comme moi, vous ne voulez pas être ceux qui seront coupés et jetés au feu. Alors, on va passer dans Luc 5, à partir du verset 15. Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ça, c'est des hommes. Ils venaient à Jésus parce qu'ils avaient un besoin. Ils voulaient être guéris. Entendre Jésus, bien sûr, mais être guéris. Alors, au verset 16, il nous est dit ceci. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Cette nécessité que Jésus avait de se retrouver avec le cœur du Père. Et simplement, j'aimerais qu'on le prenne comme un exemple. Jésus est notre modèle. Nous puissions nous aussi, si on veut changer de mentalité, frères et sœurs, eh bien on doit faire comme Jésus. On doit se retirer. Enfin, dans notre champ, mais à notre texte, quand Jésus va nous parler de la prière, il nous parle qu'on doit se retirer dans notre champ pour chercher la face de Dieu. Alors juste, je voulais vous montrer ce que Jésus faisait. Alors on va continuer à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis à son bureau. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Alors, Lévi se leva. Il laissa tout et le suivit. Je relis. Lévi se leva, suivit Jésus. Il laissa tout. Il laissa tout. Et le suit. Il laissa tout pour le suivre. Verset 29. Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur parti critiquaient cela. Petite parenthèse. Suivre Jésus, ça va vous attirer des critiques. Vous n'êtes pas étonné. On a critiqué Jésus lui-même. Et ils dirent aux disciples de Jésus, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation? Et Jésus leur répondit, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Et je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. je relis cette phrase de Jésus parce que me touche. Enfin, encore une fois, elle me parle tellement. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. Et pour qu'ils changent de comportement. Je ne sais pas ce que vous comprenez de cette phrase de Jésus. En tout cas, moi, ce que je comprends, pour ma part, c'est que si moi, Jean Bernard, je me considère comme quelqu'un de tellement juste, de tellement parfait, ben pourquoi est-ce que j'aurais besoin de changer ? Si je suis dans cette attitude-là, ben je suis dans la même attitude que ces pharisiens et ces maîtres de la loi. Et ce que je comprends de cette phrase de Jésus, c'est qu'elle me dit, Jean-Bernard, tu as besoin de comprendre que tu n'es pas juste. Mais que je suis venu, moi Jésus, pour toi. Et pour que tu changes de comportement. Tu ne vas pas changer parce que tu es tout seul. Et tu vas changer parce que je suis avec toi. Parce que tu comptes. Enfin, tu comptes sur moi. Parce que c'est la perception que j'ai, moi, de ce verset. Après, prenez la perception, enfin, pas ce que vous voulez, mais c'est Dieu vous toucher. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que le jour où moi, Jean-Bernard, j'estimerai que je suis suffisamment grand en Dieu, eh bien, je serai perdu ce jour. Parce que je ne changerai plus. Moi, je veux continuer à changer. Je veux continuer à grimper sur ce chemin étroit, difficile, oui. Rocailleux, oui. Mais où Dieu est avec moi. Et ça, je le réalise tellement, tellement. On va continuer dans Luc chapitre 6. Dans la version français courante, toujours. Il y a un titre au verset 20. Le titre, c'est « Le bonheur et le malheur ». Je ne sais pas si vous aimez le bonheur, si vous préférez le malheur. Je préfère le bonheur. Hein. Je suppose que comme moi, vous préférez le bonheur. Voilà ce qu'il dit au verset 20. Jésus regarde ses disciples et il dit « Vous êtes heureux, vous les pauvres. » C'est pas ce qu'on trouve dans notre société. Hein. C'est pas ce qu'on trouve quand, enfin, dans notre nature normale, enfin, je veux dire charnelle, notre nature adamique. On pense que pour être heureux, il faut qu'on soit riche, par exemple. Hein. Il n'y a pas que ça d'ailleurs dans cette notion-là. Mais alors Jésus va dire, hein, je reprends ma lecture, vous êtes heureux, vous les pauvres, parce que le royaume de Dieu est avec vous. Ce qui fait que je sois heureux, c'est pas que mes émotions et mes sentiments soient satisfaits, frères et sœurs. En tout cas, ça c'est vraiment ma perception. Je suis en train de vous parler de moi. Ce qui fait que je sois heureux, mais je suis heureux, c'est de savoir que j'appartiens au royaume de Dieu. Alors il peut m'arriver des tempêtes. Je le reconnais. Je peux être dans l'adversité. Je le reconnais. Parce que le royaume de Dieu, eh bien, je suis dans le royaume de Dieu. Au verset 21, vous êtes heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez nourris d'une manière abondante. Remarquez, dans ce texte, Jésus n'est pas en train de dire vous êtes heureux vous qui avez faim maintenant parce que ben, vous serez rassasiés tout de suite. C'est pas ça que Jésus dit. C'est pas ça que... Et je comprends que Jésus me dit à moi Jean-Bernard, bien compte sur moi. Même si tu vois pas, enfin, on revient à cette notion de foi tout à l'heure d'ailleurs. Même si tu ne vois pas le résultat. Parce que un jour tu auras ta récompense. C'est ça qui doit compter pour toi. Vous êtes heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Peut-être qu'on ne rit pas tout de suite. Vous êtes heureux quand les gens vous détestent et quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme, parce que vous êtes enfant de Dieu. Encore une fois, frères et sœurs, moi je me rends compte d'une chose, personnellement, que ce n'est pas naturel dans ma nature adamique. Sans prendre en compte ce que Dieu est pour moi. Quand les gens me détestent, ça fait mal. J'ai besoin que cette nature divine, cette notion que Dieu est capable de mettre dans ma vie, prenne le dessus. J'ai besoin de faire mourir. C'est comme ça, cette nature adamique. Parce que la réalité, elle est là. Enfin, c'est Jésus qui dit ça. Enfin, s'il le dit, je pense qu'il sait ce qu'il dit quand même. Vous êtes heureux quand les gens vous détestent, etc. Enfin, il y a de l'autre. Verset 23, à ce moment-là, réjouissez-vous et dansez de joie. Oui, Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les prophètes. Et au verset 24, Jésus va renverser les choses. Il va dire, mais quel malheur pour vous les riches. Parce que c'est vrai, vous êtes sur ce chemin large et étroit, et facile, c'est moi qui le rajoute. Hein. Mais je pense que c'est quand même cette notion-là. Quel malheur pour vous les riches, parce que vous avez déjà votre bonheur. Ben, votre bonheur va faire votre malheur. Votre bonheur dans votre nature adamique va faire votre malheur. C'est ça que Jésus est en train de dire. Quel malheur pour vous qui avez maintenant tout ce qu'il vous faut, parce qu'un jour vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous quand tous les gens disent du bien de vous. En effet, les ancêtres ont agi de cette façon avec les faux prophètes. Ça, c'est ce qu'on trouve dans Luc, et puis on le trouve aussi dans Matthieu, d'ailleurs. Le sermon sur la montagne, hein, les béatitudes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet de mon partage ce matin. Mais prenons en considération, frères et sœurs, il est où ton bonheur? Ton malheur? Est-ce que tu es sur le chemin large et facile? Ou est-ce que tu es sur le chemin étroit et difficile? Ou peut-être il semble que tu es malheureux. Et quand tu comptes sur la grâce de Dieu, tu réalises que tu es sur le bon chemin. La grâce de Dieu remplit ton cœur de joie et de bonheur. Verset 27. Alors là, Jésus... Je vous rappelle qu'il a introduit tout ce que je suis en train de vous dire, hein, où il nous dit, lorsqu'on a lu dans Luc 3, montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et Jésus, il va commencer à dire là, des choses très précises que nous connaissons tous. Mais voilà. Jésus dit, au verset 27, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez. » Ce matin, je vous invite à écouter ce que Jésus dit. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je le relis, hein, parce que c'est tellement inimaginable pour notre nature adamique, ça. Il faut vraiment que je la fasse mourir pour comprendre et vivre. Quand Jésus dit qu'on doit changer de comportement, eh bien, que je dois montrer par mes actes, c'est-à-dire que je dois montrer, je dois vivre le fait d'aimer mes ennemis. Mon frère, ma soeur, Jean-Bernard, est-ce que tu aimes tes ennemis? C'est la question qui nous est posée ici, que Jésus met devant nous. Est-ce que c'est possible avec notre nature adamique, ça? Sans me tromper, je peux vous dire que non. Je suis incapable d'aimer mes ennemis dans ma nature adamique. Je suis capable, je suis rendu capable d'aimer mes ennemis quand Dieu transforme ma vie, quand Dieu transforme mon être, quand c'est l'Esprit de Dieu qui prend la priorité dans ce que je suis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pas le tout d'aimer. Quelqu'un me fait du mal. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un te fait du mal, aimer celui qui te fait du mal, dans tes actes, toi, tu dois lui faire du bien. C'est ce que Jésus dit. Hein. Vous comprenez comme moi. Enfin, je ne pense pas me tromper en disant ça. Je vous rappelle que Jésus est en train de nous dire ce qu'on doit faire en montrant qu'on a changé de mentalité. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chaise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, alors ne lui réclame pas. Ça vous semble naturel tout ça? Alors, si vous me dites oui, c'est que vous êtes des menteurs. Pourtant, Jésus ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'il dit. Frères et sœurs, c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que nous devons faire pour les autres. Bon, quand je lis ça, je comprends encore une fois, j'insiste ce matin, je fais bien cette notion entre notre nature adamique, alors vous comprenez parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais ça me semble tellement fondamental. Je ne peux pas suivre cette nature et vivre ce que Jésus m'a demandé de vivre. J'ai besoin de changer de mentalité. Et je dois montrer par mon comportement que ma mentalité a réellement changé. Dans Matthieu chapitre 22, au verset 37, il parle de la même chose. Tu dois... Non, c'est Matthieu 5, verset 43, pardon. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Je reviens dans Luc, au chapitre 6, au verset 31. Une règle d'or, tout enfant de Dieu. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Je vais vous relire parce que moi, ce texte, moi, j'ai besoin de le lire, moi personnellement, j'ai besoin de le méditer pour bien comprendre ce qu'il me dit. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Vous savez ce que ma nature adamique pense quand elle lit ça? Comment je vais dire ça? Ma nature, c'est dire les autres doivent faire pour moi ce que j'aimerais. J'aimerais qu'ils me fassent. J'aimerais qu'ils s'occupent de moi. J'aimerais qu'ils m'aiment. J'aimerais que je pourrais plus. Ça, c'est la nature Adam. Jésus dit tout à fait le contraire. Il dit, faites aux autres exactement ce que vous, vous, ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Ce que j'aimerais que les autres me fassent, eh bien, je leur fais à eux. Et je comprends cette... Enfin, j'ai besoin de comprendre l'amour de Dieu pour moi pour saisir la portée de cette phrase. Je comprends... Enfin, quand j'essaie de comprendre l'amour que Dieu a pour moi, je comprends quelque chose, c'est que l'amour de Jésus, pour chacun d'entre nous, enfin, je comprends pour moi, mais vous êtes de la même façon, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est-à-dire que Dieu se donne sans rien attendre en retour. Vous comprenez ça? Dieu t'aime sans rien attendre en retour. Dieu m'aime, moi, Jean-Bernard, sans rien attendre en retour. C'est-à-dire, et si je comprends, saisis cette notion-là, encore une fois, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est impensable dans ma nature adamique. Hein. Je suppose que dans votre nature adamique, ça ne doit pas être tellement pensable non plus. Mais ce qu'il est dit ici, c'est que moi, je ne dois pas attendre que l'autre fasse ce que j'ai envie qu'il me fasse. Mais que je dois lui faire, moi. C'est dans l'autre sens. On voit toute la... Voilà. Il y a ce texte qui me dit, biblique, qui dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Vous connaissez ce verset. C'est à l'opposé. Eh bien, ce verset me montre à quel point ma nature adamique est à l'opposé de ce que Jésus veut pour moi. Frères et sœurs, je dois montrer par mon comportement que je suis dans cette nature-là, que je dois faire aux autres exactement ce que je veux qu'ils fassent pour moi. Ça me concerne moi, quelque part ça ne concerne même pas les autres. Ils sont concernés par l'action que j'ai d'amour envers eux, mais pas l'amour que eux ils ont envers moi. Oui, j'ai besoin de changer de mentalité. Au verset 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Ça, c'est naturel. On aime tous ceux qui nous aiment en général, puis on aime être aimé. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Alors, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font comme vous. Et si vous prêtez de l'argent à ceux qui vont sûrement vous le rendre, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs prêtent de l'argent aux pécheurs pour qu'on leur rende la même somme. Au verset 35, au contraire, de nouveau, Jésus va redire, on est toujours dans la même pensée. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin pour vous dire encore une fois, de nouveau ce matin, ça, ce n'est pas dans notre nature adamique. Non, non. Voilà ce que Jésus va dire. Il nous dit ça, c'est verset 35 toujours. Vous obtiendrez une grande récompense. Il ne dit pas que la récompense, on l'a tout de suite. Mais vous obtiendrez une grande récompense. Et vous serez les fils du Dieu très haut. Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Ça, c'est le cœur de Dieu, il est bon pour chacun. Est-ce qu'on est bon, nous, pour ceux qui sont ingrats envers nous? Ou ceux qui sont méchants envers nous, encore une fois? Ah, Seigneur, aide-moi à changer de mentalité. Parce que Dieu est bon. Et puis au verset 36, il va dire ceci. Je ne sais pas comment dire, mais je le prends en pleine figure, parce qu'il me concerne. Soyez plein de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Encore une fois, mon modèle. Mon modèle. C'est Jésus, c'est mon Père céleste aussi. mon Père Céleste est rempli de bonté envers moi. Il est rempli de bonté envers toi. Il a un amour inconditionnel envers moi, comme envers vous. Soyez plein de bonté, comme lui est plein de bonté. Bon, en Matthieu 22, verset 37, Jésus va dire, tu dois, il rappelle le commandement, hein, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'importance semblable. Tu dois aimer ton prochain. Mais c'est ce texte, hein? Comment ? Comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est la base de tout. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout. Et aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors soyons pleins de bonté, comme notre Père Céleste est plein de bonté. Et Jésus continue au verset 37. On est toujours dans la même pensée. Écoutez bien, je vous disais que dans ce texte, Dieu nous donne des éléments très. Enfin, Jésus est en train de nous donner des éléments très pratiques. Enfin, tout au moins, moi je les comprends comme ça. Au verset 37, Jésus va dire, ne portez de jugement contre personne. C'est pas ce qu'on fait tous les jours. Ça nous rassure tellement de pouvoir juger l'autre. Comme ça, bon, on se considère un peu mieux. Hein. On aime bien regarder aux fautes des autres, puis les mettre en avant. Jésus va dire, ne portez de jugement contre personne. Et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Je ne sais pas si vous saisissez la porte. Oh, Seigneur, j'ai. Enfin, en ce qui me concerne, encore une fois, ce texte, je le prends pour moi. J'ai besoin de ta nature, Seigneur, parce que ma nature adamique, c'est pas possible, quoi. C'est ça, ma nature adamique, enfin, quand je peux juger quelqu'un d'autre et le condamner, c'est naturel. Mais ne pas juger l'autre et ne pas le condamner, ça, c'est pas naturel. Je dis, montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Quand j'en serai, avec la grâce de Dieu, arrivé au point où je ne porte pas de jugement contre la personne, où je ne condamne pas l'autre. Et Jésus va donner un troisième élément. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. À chaque fois, il y a quelque chose qui est lié. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée, débordante, et Dieu mesurera ses dons envers vous, écoutez bien, avec la même mesure que vous employez pour les autres. Et vous, je réalise tellement que mon comportement a des incidences. Et je ne peux pas comprendre autrement quand je lis ces versets. Dans Luc chapitre 17 au verset 3, il nous dit, si ton frère fait le mal, parce que ça arrive, ton frère ou ta soeur, bien sûr, ou enfin, qui t'entoure, font le mal, ben, voilà, tu peux lui faire des reproches, bien sûr. Puis s'il regrette, pardonne-lui. Et s'il te fait du mal 7 fois par jour, et si 7 fois par jour il revient pour te dire je regrette, alors tu lui pardonneras. Encore une fois, est-ce que c'est dans notre nature adamique, ça? Non. peut-être c'est dans la vôtre. Je ne sais pas. Je me parle à moi-même. Hein. Seigneur, aide-moi. Ça veut dire que tu me changes. Hein. Au verset 40, il nous dit, oui, on est avant. Avant, je vais vous lire dans Colossiens, toujours dans la même pensée, dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Il nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Le lien de l'amour. C'est le seul lien qui nous permet d'être parfaitement unis. Il n'y en a pas d'autre. Supportez-vous les uns les autres. C'est dans la même pensée. Et donc, je reviens à ma lecture de Luc, chapitre 6, au verset 40. Il nous est dit, Jésus va dire, le disciple n'est pas plus savant que son maître. Ça, on en est tous conscients, je pense. Mais Jésus va continuer en disant ceci, et ça, ça me... Voilà, ouais, ça me... Je sais pas comment dire. Ça me touche. Mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. La question que je me pose, et je reviens à cette notion de que mon comportement, mes actes montrent le changement de ma mentalité, que je ne suis plus dans cette mentalité adamique, mais que je suis dans la mentalité de Christ, c'est que quand je suis bien formé, alors je suis comme mon maître, je suis comme Jésus, j'agis comme Jésus, je réagis comme Jésus. Je vous disais que dans tout ce texte, Jésus nous montre des choses très pratiques. Au verset 41, Jésus va dire, pourquoi regardes-tu, mais écoutez bien maintenant, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère? Frères et sœurs, honnêtement, qui d'entre nous ne fait pas ça, naturellement? Qui d'entre nous, dans notre nature normale, on n'est pas comme ça? Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère? Alors que tu ne remarques même pas la poutre est dans ton œil. Comment te dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil. Toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien. Jésus va employer un mot fort, hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Au verset 43, de nouveau, ils veulent reprendre, hein, c'est pour vous montrer à quel point Jésus est toujours dans la même pensée. Parce que quand on a lu tout à l'heure dans Luc 3, qui nous parlait, Jésus disait qu'on devait montrer par nos actes que nous avons changé de mentalité. Il prenait l'exemple, enfin, cette image que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Il est toujours dans ce même contexte. Au verset 43, il va dire, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Ni un arbre malade de bons fruits. Il prend la même image. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines. On ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. Et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Car la bouche de chacun, ça aussi c'est... La bouche de chacun exprime ce dont le cœur est plein. Jésus va dire ceci, et c'est le texte de la semaine que j'ai mis comme texte de la semaine, que je ne vous ai pas lu tout à l'heure, mais je vous lis maintenant, parce que comme ça, bah, vous pourrez comprendre que c'est dans tout le contexte qu'on est en train de voir ce matin. Jésus va dire, au verset 46, et moi je le prends pour moi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est facile. Seigneur, Seigneur. mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est facile ce texte, comme ça le lire, hein? Mais c'est bon de le lire en réfléchissant à tout ce qu'on vient de lire auparavant. Est-ce que je suis celui qui aime comme toi tu es? Est-ce que je suis celui qui ne condamne pas comme tu m'as demandé de le faire? Est-ce que je suis celui qui pardonne comme toi tu peux pardonner? Est-ce que j'ai compris que je serai la façon dont moi je me comporte avec les autres? Ben c'est là, cette façon-là que tu vas me peser un jour. C'est ce qu'on a lu, hein? Verset 47. Je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi. Écoute mes paroles et les mets en pratique. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Écoutez pour les comprendre et les mettre en pratique. Il est comme un homme qui a bâti une maison. Il a creusé profondément la terre et il a posé les fondations sur le roc. Alors, quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais quiconque écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le sol sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, alors elle s'est aussitôt écroulée et elle a été complètement détruite. Ma maison, ma vie. Jésus, là, est en train de parler de notre vie. Mes fondations sont lesquelles? Je vous répète, enfin, c'est pas moi qui le dis, enfin, je répète ce que Jésus dit. Ce que Jésus enfin, a dit au travers de tous ces textes qu'on a vus. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Je vais donc le dire autrement. Montrez par ce que vous êtes que votre fondation, elle est vraiment en Jésus. C'est ça la question qu'on doit se poser les uns les autres tous les jours. Merci Seigneur pour ton amour. Et aide-nous Seigneur. Aide-moi Jean-Bernard dans ta grâce parce que j'ai besoin de toi, je ne peux pas arriver Seigneur. Je veux apprendre à aimer comme toi. Je veux apprendre à ne pas laisser ma nature adamique faire, à ne pas condamner si facilement et à pardonner. Cette semaine, comme à l'école biblique, j'espère que vous avez tous écouté ces leçons, mais les leçons pour le combat spirituel et le fondement biblique du combat spirituel, il relève plusieurs choses. Donc, premièrement, il nous partageait ce verset d'Éphésiens 6, qui nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Et c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi qu'on viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire, et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position, combattu jusqu'à la fin. » Alors, il nous donnait plusieurs réflexions et j'ai trouvé intéressant de vous les mentionner par rapport à tout ce qu'on vient de dire ce matin. Premièrement, il nous disait que le combat spirituel est une réalité pour tout enfant de Dieu. C'est-à-dire chacun d'entre nous, nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, nous vivons le combat spirituel. Et il disait que ce combat spirituel, c'était 24 heures sur 24. Pourquoi? Frères et sœurs, une des raisons fondamentales, encore une fois, je reviens, c'est que nous avons en nous cette nature adamique que nous devons faire mourir. Que cette nature adamique, elle est issue enfin, elle est arrivée à cause du péché, c'est-à-dire qu'elle est sous l'influence de ces dominations, de ces autorités. Et on doit faire mourir cette notion. C'est un combat spirituel pour chacun d'entre nous, 24 heures sur 24. Ça, c'était la première notion. La deuxième notion, et qu'on a vu dans les textes de ce matin, c'est que la bataille n'est pas dans le domaine naturel, mais dans le domaine surnaturel. Ce n'est pas une bataille, il disait ceci, ce n'est pas une bataille intellectuelle, émotionnelle ou physique, elle se passe dans le domaine spirituel. Et il disait, donner cette notion qui est fondamentale dans le combat spirituel, de nouveau, enfin je répète, qu'on retrouve dans les notions que Jésus nous a partagées ce matin, et qu'on doit graver ça dans nos cœurs. Les êtres humains ne sont et ne seront jamais l'ennemi à combattre. On n'a pas à se combattre les uns les autres. Ça, c'est notre nature adamique qui sait bien faire ça. Les êtres humains ne seront jamais l'ennemi. Et il va dire autre chose qui me semble importante. C'est en combattant les gens, quand on se combat les uns des autres, par exemple, eh bien, nous avons un effet négatif dans le domaine spirituel. On n'est pas en train d'accomplir l'œuvre de Dieu quand on se combat les uns les autres. Mais on est en train de, enfin, je ne veux pas dire d'affaiblir le royaume des cieux, mais on est en train, finalement, de combattre avec Satan. Contre le royaume de Dieu. C'est ça qu'il nous a expliqué. Mes frères et sœurs, l'enfant de Dieu que je suis et l'enfant de Dieu que tu es doit avoir en lui cette conscience absolue, qui a cette nécessité absolue de se laisser changer et d'être transformé. On n'est pas arrivé vraiment. Encore une fois, je répète, si je pense que je suis tellement bien que je n'ai pas besoin d'être changé, transformé, je serai celui qui sera coupé, et je te le fais. C'est Jésus lui-même qui ne me permettrait même pas de le dire. Je répète simplement les paroles que Jésus nous a données. Et en même temps, dans tout ce que Jésus nous a partagé ce matin, il y a toute cette notion de grâce et d'amour que Dieu a pour chacun de nous. On ne sera jamais tout seul, frères et sœurs. Oui, on est sur un chemin étroit, difficile, rocailleux. N'ayez pas peur du chemin étroit, difficile, rocailleux. J'aimerais vous le rappeler ce matin. Si je veux vivre, si je veux faire mourir ma nature adamique pour vivre cette nature divine, je ne serai jamais sur le chemin large et facile. Dans mon expérience, je suppose que c'est la vôtre, la même chose, parce que, comme j'aime le dire de temps en temps, je ne suis pas le chouchou de Dieu, donc on a le même Seigneur. Je peux vous dire, en tout cas, vous témoigner que oui, dans ma vie, il y a des combats, que les combats ne sont pas faciles. Et qu'il y a des moments de pleurs, de tristesse. Mais, chemin étroit, difficile, rocailleux. Mais je peux vous dire une chose. Je peux tout vous témoigner, parce que c'est ce que je vis. C'est que je suis dans la joie de servir le Seigneur, de me laisser transformer et de vouloir être transformé encore. Mais que dans tous les détails de ma vie, premièrement, Jésus ne m'a jamais laissé. M'a jamais abandonné. Même quand c'était difficile, même quand il y avait la tempête, comme Jésus l'a expliqué là au verset 47, avec cette maison. J'ai toujours vu la main de Dieu à un moment donné. Dieu ne nous abandonnera jamais quand on est dans ses mains et quand on accomplit sa volonté. Dieu ne nous abandonnera jamais même quand on est avec des vents contraires. Même quand tout semble perdu. Quand la tempête se déchaîne, Dieu était. À un moment donné, vous savez, il y a un autre texte qui me touche particulièrement, que je peux dire que je ne connaissais pas, mais il y a finalement pas si longtemps que ça, j'ai tellement réalisé la portée de ces textes, même si je vous le partage de temps en temps, et je vais vous repartager ce matin. Parce que c'est tellement l'amour de Dieu manifesté, c'est que Jésus n'éteindra jamais le lumineux qui fume et ne cassera jamais le roseau brisé. Je réalise dans ma vie que Jésus est celui qui est toujours là pour me prendre la main quand c'est nécessaire. Et je le vis dans les détails de ma vie tous les jours. Et je suis sûr que vous le vivez vous aussi, bien sûr. Tout est en train de s'écrouler. Vous faites confiance au Seigneur. Là, vous voyez la main de Dieu. Des fois dans des petits détails, enfin dans des petites choses, mais Dieu est celui qui agit. Jamais il nous abandonnera. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin, frères et sœurs. Soyez bénis. Et puis qu'ensemble, même si ça s'adresse bien entendu à chacun d'entre nous personnellement, mais finalement dans l'Église, ben, on est ensemble, on est une même famille, on apprenne les uns les autres à vivre à l'exemple de Jésus, à changer de mentalité, à aimer, à ne pas condamner, à pardonner. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier.